et crique et crac. Chut. Écoute. D'où vient ce bruit? Et crique et c'est pas grave, c'est bon. Je pense avoir trouvé. C'est par ici, du côté de l'atelier du menuisier. Regarde-le, debout, dans son étable. Il crée des splendides objets. En les rabotant parmi les copeaux et les sciures, il rêve à de grandes destinées, à de magnifiques aventures pour chaque œuvre qu'il a fabriquée. Notre brave homme vient tout juste de terminer un beau coffre. Son désir est que ce coffre puisse contenir des objets de valeur, qu'il pourra contenir des pierres précieuses, des pierres, des trésors, des pièces d'argent. Mais son rêve est brisé lorsque soudain, des personnes entrent dans l'atelier pour acheter ce beau coffre, non pas en vue de l'usage souhaité, mais pour en faire une auge que cette personne va placer dans une étable afin qu'elle serve à la nourriture des animaux. Ce n'est pas du tout ce qu'avait espéré notre brave menuisier. Quelle déception pour lui. Voir son beau coffre transformé en mangeoire. Mais par une belle nuit étoilée, un homme et une femme entrent dans cette étable. Car il n'y a pas de place dans aucun hôtel de la ville de Bethléem. Il s'agit d'un couple dont la femme est sur le point de mettre au monde un bébé. Vous l'avez deviné, c'est Marie. Et là, dans l'étable, Marie donne naissance à un magnifique enfant qu'elle dépose ensuite dans la mangeoire. Le souhait du menuisier est exaucé au-delà de ce qu'il avait espéré, car son coffre en bois, devenu une auge, reçoit le plus fabuleux des trésors, Jésus, le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour nous chercher pour nous trouver pour nous sauver. Selon les paroles de l'ange à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Jésus est venu sur cette terre pour te chercher. Me chercher, te trouver, me trouver, te sauver, me sauver. C'est le plus beau message que l'on puisse trouver dans l'évangile, particulièrement dans l'évangile de Jean. Jean 3,16, Dieu a tant aimé et quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne et Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils, Jésus, afin que celui qui croit en lui, non pas d'une façon intellectuelle, mais avec son cœur, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre courageux menuisier se met alors à réaliser, avec des planches de bois, un bateau qui pourra voguer sur les plus grands océans. Dans ses rêves les plus fous, il voit des rois monter sur ce bateau pour traverser des mers. Quelle nouvelle déception pour lui. Lorsqu'un pêcheur de Capernaum entre dans l'atelier et achète le bateau afin qu'il serve tout simplement de barque à poisson sur le lac de Galilée. Quelques jours plus tard, un groupe d'hommes monte sur cette barque. L'un d'eux est fatigué et s'endort. Il s'endort la tête sur le coussin. La suite, si vous le souhaitez, peut être lue dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Au verset 24, il nous est dit, chapitre 8, verset 24, « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. La barque monte et descend d'une manière inquiétante, se balançant un coup vers la droite, un coup vers la gauche. Les disciples ont beaucoup de mal à manœuvrer l'embarcation qui risque d'un moment à l'autre de chavirer, de se briser en mille morceaux. Ils luttent de toutes leurs forces pour éviter que le bateau ne coule. » Et que fait Jésus durant tout ce temps? Il dort. Il dort la tête sur le coussin. pris de panique. On peut le comprendre. Ses disciples, ses amis, décident de le réveiller. « Seigneur, sauve-nous! Sauve, nous périssons !» Alors Jésus ouvre un œil, puis le second, et enfin se lève. Là, debout, face au vent et à la mer, Jésus parle d'un ton sévère, tout d'abord au vent. « Calme-toi !» Et fais silence. Puis il parle à la mer. « Calme-toi ! Fais silence !» Aussitôt, le vent cesse de souffler et les vagues cèdent la place à une fine écume sur la surface des eaux. Et un grand calme s'installe. Tout rentre dans l'ordre. Un grand ouf de soulagement sort bien sûr de la bouche des disciples. La barque continue de voguer tranquillement sur les eaux redevenues paisibles, tandis que saisis d'étonnement, les disciples se disent pour la première fois, réalisent pour la première fois que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui encore, lorsque la barque de notre vie semble est fortement agitée, nous pouvons venir à Jésus, nous pouvons venir vers lui afin de lui demander d'intervenir. Laissons Jésus se lever dans la barque de notre cœur. Laissons-le comme notre capitaine, qui ne soit pas simplement qu'un matelot de passage. Un jour, tu viens dans la barque de ma vie et le lendemain, tu es un petit peu gênant. Je reprends les contrôles. Non, laissons Jésus. Qu'il soit le capitaine de notre vie, non seulement le dimanche, mais le lundi au travail, le mardi, le mercredi sur un terrain de sport, par exemple, quand on joue au football, quand l'équipe Sport de Foi joue au football contre Sport 2000, que Jésus reste le capitaine dans la barque de notre cœur. Le rêve du menuisier s'est réalisé. Sa barque a transporté le roi des rois, à qui obéissent les vents et la mer. Heureux, il retourne dans son atelier. Et son regard se porte sur des grosses poutres en chêne qu'il a déposées là il y a quelques années. Que puis-je en faire ? Je sais, pourrais peut-être choisir la plus grande et après l'avoir bien rabotée, je la fixerai dans le sol, en direction du ciel. Ainsi, chaque passant qui passera devant cette poutre en bois s'arrêtera et regardera vers le ciel et pensera peut-être à Dieu. Mais voici qu'un beau matin, des soldats venus tout droit de Jérusalem entrent dans l'atelier, en choisissent deux. Ils demandent au menuisier d'assembler ses poutres pour former une croix. Une fois terminée, on la place sur les épaules d'un homme que l'on oblige à la transporter à travers les villes, les rues de Jérusalem, sous les insultes de la foule. C'est ainsi que Jésus sort de Jérusalem, précédé par des soldats romains. La loi juive de cette époque interdisait qu'une crucifixion soit faite dans la ville. La crucifixion devait toujours se faire hors de la ville. Beaucoup de gens les accompagnent jusqu'à la colline appelée le mont Golgotha. Ce jour-là, trois prisonniers doivent être crucifiés. Et les soldats chargés de l'exécution commencent aussitôt leur sinistre besogne. Ils attachent le Seigneur Jésus à la croix du milieu avec d'énormes clous dans ses mains et ses pieds. Puis ils redresse la croix et le fixe dans le sol. Vers 9h du matin, les trois croix sont hissées. Jésus est cloué sur celle du milieu. Les deux hommes crucifiés avec lui le regardent et s'écrient méchamment « Allez, sauve-nous !» Ces hommes ne regrettent même pas le mal qu'ils ont fait durant toute leur vie. Ils veulent seulement que Jésus les fasse échapper à cette mort terrible. Jésus ne leur répond rien. Puis soudain, l'un des brigands cesse de lancer des injures. Il commence à comprendre et dit « Tais-toi ! Tu sais bien que nous méritons d'être condamnés à mort parce que nous avons fait du mal. Mais cet homme, il est innocent. ce brigand sent probablement qu'il va mourir et qu'il va rencontrer Dieu. Comme c'est terrible, mes amis, mes bien-aimés, de se trouver devant la face de Dieu après avoir passé toute sa vie à refuser l'appel d'amour de Dieu, la main tendue qui te dit « Je t'aime ». Arrête de murmurer dans ton cœur. Arrête de faire la sourde d'oreille. Je tends ma main vers toi. Je t'aime. Que c'est terrible de rencontrer Dieu après avoir commis tant de mal sur cette terre. Qui peut l'aider? Qui peut l'aider quand on rencontre Dieu face à face? Toutes bouches seront confondues. Toutes les bouches seront confondues quand on rencontrera Dieu face à face. Pour la première fois, il regrette le mal qu'il a commis. Il regrette d'avoir vécu toute son existence dans le péché. Il comprend alors que seul Jésus peut l'aider. Alors il tourne la tête vers lui et lui dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Le Seigneur Jésus, malgré ses terrible souffrance, éprouve de l'amour et de la compassion pour ce brigand et lui répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À ce moment précis, le Seigneur Jésus est en train d'être puni pour tes péchés, mes péchés, les péchés de chacun, petit ou grand, les péchés aussi de ce brigand. C'est pourquoi il peut aujourd'hui nous pardonner et permettre à ce brigand d'être pardonné et prêt à rencontrer Dieu sans être pardonné. Car c'est Jésus qui a pris sur lui ses péchés comme nos péchés. Et c'est lui, Jésus, lorsqu'il se présentera devant Dieu, qui sera notre avocat. Nous l'avons entendu ce matin. Jésus est notre avocat auprès du Père. Et constamment, Jésus, il défend notre cause. Il défend notre cause. Assis à la droite du Père, il est notre avocat. Il intercède pour nous. Il ne nous est pas dit qu'il prie seulement pour nous. Il intercède. Ça veut dire qu'il va transmettre au Père, bien sûr, nos prières, nos souhaits. Mais ce qu'il va surtout faire, il va te présenter. Il te présente, il intercède pour toi. Ce n'est plus tant nos prières, ce n'est pas tant nos souhaits, nos vœux, mais il te présente toi. Il est notre avocat. Et s'il nous arrive de pécher, c'est vrai, tout de suite l'accusateur, le prince de ce monde, se présente devant Dieu, dit « Oh, tu as vu le pasteur Jean-Jacques ? Tu as vu le pasteur Jean-Jacques ? Oh, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. » Tout de suite, mon avocat se présente devant Dieu le Père. Il dit « Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et je l'ai entendu aussi. Je l'ai entendu demander pardon. Je l'ai entendu demander pardon. Et j'aimerais vous dire que Jésus n'a jamais perdu une seule plaidoirie. Quand il défend notre cause, il la gagne. Il n'a jamais perdu une seule plaidoirie. C'est vrai qu'il est auprès du Père pour intercéder. Il est notre avocat. Et pour revenir par rapport à la prophétie de tout à l'heure, il est à droite du Père, il a dit avant de partir à ses disciples, « Je m'en vais et je vous préparerai une place afin que là où je suis, moi aussi, vous aussi vous y soyez. » Alors mes bien-aimés, sachez que Jésus est en train de préparer une place pour toi, pour moi. Faut-il encore que notre nom soit inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que Dieu a inscrit ton nom dans le livre de la vie? C'est à toi, bien sûr, d'y répondre. Soudain, à midi, sans explication apparente, une épaisse obscurité envahit tout le pays pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il était en train de prendre nos péchés, mes péchés, tes péchés, en train de prendre nos maladies. Et c'est vers 15 heures, après avoir beaucoup souffert, Jésus s'écrit « Tout est accompli ». Et littéralement dans le grec, c'est « Tout est payé ». J'ai payé le prix pour la libération, pour le pardon de ceux qui me demanderont pardon, avec ce désir de ne plus recommencer. À ce moment-là, il y a un grand tremblement de terre. Les soldats effrayés disent « Cet homme était le Fils de Dieu !» Le rêve du menuisier s'est réalisé. Désormais, chaque fois qu'on regardera la croix, on pensera à Dieu. Elle rappellera à chacun que le Fils de Dieu est mort sur celle-ci en prenant sur lui nos péchés, notre punition. Et aujourd'hui, Dieu peut nous pardonner sans nous punir. Pourquoi Dieu peut-il nous pardonner sans nous punir? Parce que c'est Jésus qui a pris sur lui notre punition. C'est pourquoi il peut nous pardonner sans nous punir. Parce que c'est lui qui a été puni à notre place. Tout ému, le brave homme retourne à son atelier pour repasser toutes ces choses dans son cœur. Néanmoins, la tristesse envahit tout son être, car son rêve semblait pour Jésus s'être transformé en cauchemar. On avait déposé son corps dans une grotte, roulé une grosse pierre pour fermer l'entrée, mais la joie est vite revenue lorsqu'il apprend 3 jours plus tard que des femmes ont trouvé la pierre roulée, le tombeau vide, et qu'elles ont rencontré un ange leur annonçant cette bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il a vaincu la mort, il est vivant. Tout heureux de cette nouvelle, il se décide de reprendre ses outils pour réaliser un bel objet, pour l'offrir au ressuscité, mais réalise très vite que le plus beau cadeau que l'on puisse lui offrir, c'est un cœur. C'est un cœur tout entier pour l'aimer. Un cœur tout entier pour le servir. Un cœur tout entier pour l'aimer. Telle est l'histoire que le menuisier raconte très souvent lorsqu'il se repose près de la cheminée en compagnie de sa famille. Et criquet, l'histoire est finie. Criquet, ne faisons plus de... Car si l'histoire est terminée, il y a une leçon à en retirer. En effet, si l'histoire du menuisier, vous l'avez deviné, est imaginée, par contre, le récit de Jésus est vrai. Il est venu sur cette terre pour nous sauver et prendre sur lui la punition que méritaient nos méfaits. À toi maintenant, petit ou grand, de venir à toi, de venir à Jésus, tout confiant. Car Jésus pardonne celui ou celle qui lui demande pardon pour son péché et l'aide à ne plus recommencer. Il t'aime tant et veut laver ton cœur de bonheur, peu importe ton âge, et le remplir, oui, de pardon, de joie, de bonheur. Et vous, chers parents, il y a aussi pour vous un enseignement. Retournons dans la maison du menuisier pour y apprendre quelques leçons à pratiquer. Dans la maison du menuisier, nous y voyons beaucoup de choses. Dans 2 Rois 20:15, il nous est dit, il nous est noté ceci, Ésaïe, le prophète Ésaïe, rencontre le roi Ézéchias et lui dit, qu'ont-ils vu dans ta maison? Qu'ont-ils vu dans ta maison? Et nous allons ensemble visiter la maison de Joseph pour voir qu'est-ce qu'on voit dans cette maison. Et tout en se posant cette question, que voit-on dans ma maison? Que voit-on dans ta maison? Dans la maison de Joseph, on y voit un homme de bien. Un homme de bien, nous dit la Bible, c'est un homme qui ne diffame pas. Imaginez, quelle désillusion pour Joseph d'apprendre que sa fiancée est enceinte. Il se sent trahi par celle qu'il aime tant. Mais Joseph, homme de bien, ne va pas la déshonorer. Pourtant, un seul mot de sa part, et Marie pouvait être lapidée, selon la loi. En effet, une femme qui avait commis adultère pouvait être lapidée, selon la loi. La mort ou la vie de la jeune fille était au pouvoir de la langue de Joseph. Et rappelez-vous ce que le proverbe 18-21 nous dit. La vie ou la mort se trouve au pouvoir de notre langue. Il y a des secrets, il y a des vérités qui ne doivent absolument pas sortir de notre maison. Époux, épouse, veillez à vos paroles. Quand vous parlez, même à vos enfants, de votre épouse ou de votre époux. Dans votre maison, veillez comment vous parlez de votre conjoint ou conjointe, à votre enfant. Comment vous parlez à l'extérieur de votre bien-aimé. Dieu voit-il en vous une femme? Dieu voit-il en vous un homme qui ne critique pas? La vie ou la mort est au pouvoir de la langue. Dans la maison de Joseph, on voit également un père qui obéit à Dieu. Quand l'ange le lui a dit, comme l'ange le lui a dit, Joseph épouse Marie et l'accueille chez lui. Cette même foi qui se manifeste par l'obéissance, car Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais à l'obéissance. Cette obéissance se voit-elle dans votre maison? On voit également dans la maison de Joseph un homme protecteur. Après la visite des mages, le roi Hérode a des pensées meurtrières. Mais averti par un ange, Joseph, nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures, fuit en Égypte avec l'enfant et Marie. Joseph prend ses responsabilités de chef de famille. Il assume pleinement sa mission, protéger les siens. Pourtant, Jésus était comme le Fils de Dieu. Il aurait pu se défendre. Mais Joseph assume ses responsabilités. Il prend Marie et l'enfant, Jésus, le Fils de Dieu, pour le mettre hors des griffes meurtrières du roi. Dieu trouve-t-il encore aujourd'hui, au XXIe siècle, des hommes, des Joseph, qui assument pleinement leurs responsabilités que Dieu leur a données, chef de famille? Ce n'est pas toi qui as décidé d'être le chef de famille, c'est Dieu qui t'a établi, papa, chef de ta famille, pour faire face au plan funeste du prince de ce monde. Ce n'est pas un appel à placer nos enfants dans un cocon évangélique pour les isoler de tout contact extérieur, mais un appel à la vigilance. Un appel à la vigilance. Qu'il y ait aussi chez vous cette petite lumière qui brille, et lorsque l'enfant s'approche de chez vous, puisse y entrer et savoir qu'ici, il y a la protection, qu'il y a dans votre foyer une muraille spirituelle, là où l'ennemi n'y rentre pas, mais que la lumière demeure, que Jésus, la lumière du monde, soit bien mis en évidence et non caché sous le boisseau. Laissons-nous instruire par l'exemple de Joseph, le père adoptif de Jésus, qui a su le protéger pour le préparer au dessein de Dieu. Loin de la méchanceté du roi Hérode, l'enfant va grandir normalement. Et sachez que si vous mettez votre enfant loin des griffes du Satan, votre enfant va grandir normalement. Il sera 10 fois supérieur aux autres. La Bible dit, l'expérience le prouve. De retour à Nazareth, il est rempli de sagesse. C'est pas pour rien tous ces détails-là. C'est juste après le retour. On va dire, oui, mais un enfant, s'il est hors de contact, il ne va pas s'épanouir. Mais Jésus, loin du roi Hérode, que va-t-il? Il va rentrer, il va grandir. il nous est dit qu'il grandit en grâce, en stature et en sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. C'est normal. Joseph a agi selon les conseils de Dieu. Cette protection physique nécessaire à l'enfant. Tout parent, bien sûr, les force à le lui donner. Mais il y a aussi une protection spirituelle. Complétée par une mise à part. Votre enfant, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Jésus, quand il prie pour l'enfant, il prie que dans Marc 16, il prie pour que l'enfant soit mis à part. Une mise à part. On entend souvent trop dire, pour être fort, l'enfant doit être éduqué dans le monde réel. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Pour que l'enfant soit fort, il faut qu'il soit éduqué dans le monde réel. Cela équivaut à dire à votre enfant, je vais te jeter dans l'océan Indien, là où il y a des requins, et toi qui ne sais pas nager, tu vas essayer de survivre. Excusez-moi, c'est dur, mais c'est une réalité. Dans la maison de Joseph, nous voyons des parents pieux, c'est-à-dire des personnes qui respectent Dieu par amour, qui respectent Dieu, c'est ça la piété, qui respectent Dieu et lui obéissent par amour. Ce n'est pas du légalisme. Marie et Joseph font pour le petit enfant tout ce que la loi prescrit. 40 jours après l'accouchement, ils présentent l'enfant à Dieu. Jésus grandit dans une famille où la Torah est lue, non seulement lue, mais observez, votre enfant voit-il en vous un modèle dans votre maison, dans la lecture et l'obéissance de la parole de Dieu? Est-ce que votre enfant voit papa le matin qui devance l'aurore lire la parole de Dieu comme tout disciple chaque matin pour écouter la parole de Dieu? Certes, aujourd'hui, nous vivons dans la grâce. Je sais que nous vivons dans la grâce et merci pour cette grâce. Mais la grâce est supérieure à la loi dans tous les domaines. Et la grâce nous enseigne. Tite 2:11 nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne. Il y a l'enseignement de la grâce. Et laissons-nous nous enseigner par la grâce. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la piété. La grâce nous enseigne aujourd'hui, au 21e siècle, à vivre selon la piété, dans notre maison et à l'extérieur, dans la maison, en obéissant à la parole de Dieu. Jésus grandit et se fortifie dans sa famille. Chaque année, il voit ses parents se rendre à Jérusalem pour la Pâque. Votre enfant voit-il en vous des parents heureux et fidèles d'aller aux réunions? Nous allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Oh, je suis même dans la joie lorsque le prédicateur est un petit peu plus long. Oh là, le prédicateur, il est long. Hé, femme. Allez. Il va falloir qu'on parte. Hein. Il y a le poulet qui attend dans le four. Hein. Est-ce que vous êtes dans la joie lorsque nous sommes dans la maison de Dieu? Votre enfant voit-il en vous des parents zélés? Heureux, fidèles aux réunions. Pourtant, une ombre vient ternir ce beau tableau. À 12 ans, et pour la première fois selon la loi juive, Jésus a la possibilité d'aller à la fête de la Pâque à Jérusalem. Il part avec ses parents. Au retour, Marie et Joseph repartent sans vérifier que leur enfant est avec eux. Le soir, après une journée de marche, ils s'aperçoivent que Jésus est n'est plus là. Ils le cherchent partout. Ils s'aperçoivent de son absence. Ils ont perdu le contact avec leur enfant pendant 24 heures. Angoissés, ils le cherchent partout, parmi leurs amis. Ils décident alors de faire demi-tour. Au bout de 3 jours, ils le trouvent dans le temple, conversant, comme on le lit, avec les docteurs de la loi. Alors cet incident nous rassure quelque peu, hein. Oui, quand même. Nous rassure, nous montre qu'il n'y a jamais eu de parents parfaits et il n'y en aura jamais. Rassurez-vous. Il y a le beau tableau que Dieu nous montre, Dieu aimerait que l'on soit. Mais Il n'y a jamais eu de parents parfaits, ni de grands-parents parfaits, jamais. Cependant, mes bien-aimés, nous sommes tous, vous et moi, invités à progresser. Avec l'aide de Dieu, nous aider à progresser dans cette belle tâche d'être papa. Merveilleuse tâche. Une maman, cette femme pieuse, que l'on peut lire dans Proverbes, nous sommes tous invités à progresser. Veillons à maintenir le contact avec votre enfant par un dialogue fréquent, un intérêt pour les jeux. Eh oui, jouer avec votre enfant, c'est important. Jouer à la petite voiture. Eh oui, c'est important d'être avec lui, ce contact. Quand l'enfant est plus grand, aussi s'inquiéter de ses études. De peur que petit à petit, il nous échappe. 24 heures, tiens, plus de contact avec l'enfant. 48 heures, et on s'aperçoit que plusieurs mois après, qu'on a complètement perdu contact avec notre enfant. Dommage que vous n'étiez pas là, pour ceux qui n'étaient pas là hier matin, on ne peut pas en parler, mais un des grands reproches que Dieu fera au peuple d'Israël, c'est que le papa ne se soit pas attaché à son enfant. C'est le grand reproche, les dernières paroles terribles de Malachie. Vous pouvez vérifier, Malachie 4-6, ce sont les dernières paroles qui clôt l'Ancien Testament. Pendant 400 ou 500 ans, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 500 ans, il n'y a plus eu une seule parole de la part de Dieu. Ces dernières paroles, c'est le reproche que Dieu va donner au Père, que le cœur du Père n'était plus attaché au cœur de son enfant. Mais Dieu est bon, il envoie le prophète Jean-Baptiste. Et le but, c'est que par l'esprit de la puissance de Dieu, le Père puisse de nouveau se rapprocher vers son enfant. Nous voyons aussi dans la maison de Joseph les outils du charpentier. La famille de Joseph est non seulement pieuse, mais elle est aussi travailleuse. Sous les yeux de Jésus, Joseph manie la hache, rabote, scie, enfonce des clous. Dans le village, tout le monde connaît Joseph comme le charpentier. Le travail devenu plus difficile aujourd'hui, c'est vrai, depuis la chute, n'en demeure pas moins un précieux trésor pour chacun d'entre nous. Dieu ne diminue en rien sa valeur. Bien au contraire, il encourage ce travail fortement. Que voit votre enfant dans votre rapport par votre travail? Est-ce qu'il voit que le travail bien fait honore Dieu et que l'on s'épanouit en travaillant? Comme le dit la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, en Colossiens, comme si c'était pour le Seigneur. C'est une véritable bénédiction et un sujet de reconnaissance pour un enfant de voir son papa actif et travailler paisiblement, virgule, honnêtement, point. Et pour terminer, on voit dans la maison de Joseph deux charpentiers, père et fils. Jésus n'est plus appelé le fils du charpentier, mais il est appelé le charpentier. Marc 6, 3. Son père lui a transmis les bons gestes, des conseils et aussi l'amour du bois. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu'un fils doit nécessairement choisir le métier de son père, mais que la transmission d'un savoir, la transmission d'une passion, la transmission de la foi ne peut se faire qu'en vivant à proximité de son enfant. Très rapidement, notons que le mot transmettre, nous l'avons vu hier, en grec, signe et paradidomie, et généralement traduit par mettre entre les mains d'un autre ou enseigner. Ce mot est constitué de deux racines, para et didomie. Para, auprès d'eux, qui a donné en français le mot de parent. Para a donné en français le mot parent. Et didomie, donner un écrit, donner une instruction. C'est pourquoi il n'est pas possible, mes bien-aimés, il n'est pas possible de transmettre quelque chose à notre enfant si nous ne vivons pas à côté de Ce n'est pas possible. Si vous vivez trop éloigné de votre enfant, vous ne pourrez jamais, jamais, jamais lui transmettre quelque chose. Ainsi, transmettre la foi aux enfants est une tâche que Dieu réserve avant toute chose aux animateurs et aux pasteurs. C'est ani didomi. Para ou pasteur didomi. Non. Dans les lois divines, la parole de Dieu, c'est para didomi. Parents vivant à côté de l'enfant pour lui transmettre quelque chose. Ainsi, la foi, la transmission de la foi est une tâche que Dieu te réserve à toi, papa. Pas aux animateurs, pas aux pasteurs. Non, c'est à toi, papa. Aidé par maman. C'est un principe de Dieu. C'est un principe de Dieu. Malheureusement, 85% des membres de nos assemblées vont déléguer cela aux animateurs. Ce n'est pas un principe de Dieu. C'est à papa de transmettre la foi. Ainsi, transmettre la foi est une tâche réserve que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Papa. Comme je pouvais le dire hier, malheureusement, si l'école de dimanche devrait être un moment où l'enfant devrait venir avec un gâteau et que l'animateur puisse y mettre une belle cerise, la cerise sur le gâteau, pour que le dimanche matin, dans le culte pour enfants, ça soit le feu d'artifice, un moment de joie, d'allégresse, de louange. Malheureusement, l'enfant, il vient sans gâteau, parce que durant toute la semaine, il n'a rien reçu à la maison. On n'a pas ouvert la parole de Dieu, il n'a pas été enseigné. Et l'animateur, qu'est-ce qu'il doit faire? Le pasteur, que doit-il faire? Il doit tout recommencer à zéro. Refaire un petit hamburger, peut-être, toute vitesse. Allez, vite fait, parce que là, en 2 heures, c'est pas possible. Il faut faire une restauration rapide. Et non, un succulent gâteau et la cerise, bah, ça va être peut-être un petit truc de mayonnaise. C'est pas... Et quelquefois, l'enfant va dire, ça a été indigeste. Ben oui, on essaye en une heure et demie de lui donner le maximum parce qu'on aime les enfants. Mais tandis qu'un bon gâteau, quand maman fait un petit gâteau, hein, elle y met de l'amour, elle va mettre plusieurs heures, hein, c'est pas du cheeseburger, hein, non, c'est un bon gâteau, voilà. Oh, et quand l'enfant va venir, il va se régaler. Oh maman, comme hier soir, hein, n'est-ce pas? Merci Myriam. Un beau petit gâteau, il était tellement bon, j'avais plus faim. Hein, parce qu'on m'a tendu beaucoup de pièges depuis mon arrivée. Hein, et on m'a tendu beaucoup de pièges. Et hier soir, j'avais plus beaucoup faim, mais il était tellement bon. J'ai dit, Myriam, je vais y regoûter. Quel beau modèle, n'est-ce pas? La maison de Joseph. Est-ce qu'on voit, mes bien-aimés, ces principes bibliques dans la vôtre? Est-ce que l'on voit dans votre maison un homme de bien. Un homme de bien qui ne diffame pas, qui ne dit pas de mal de son épouse, de son époux. Est-ce que l'on voit également un père obéissant à Dieu en lisant la parole de Dieu, mais en lui obéissant? Est-ce que l'on voit aussi des parents pieux, des parents qui aiment Dieu et qui lui obéissent? Est-ce que l'on voit également une famille travailleuse? Et est-ce que l'on voit, mes bien-aimés, des parents qui transmettent la foi à votre enfant en vivant à côté d'eux? Chers parents, soyez encouragés. Soyez fortement encouragés. Dieu est à votre côté. Il est à votre côté pour vous aider. Il est à votre côté aussi, si cela est nécessaire, pour restaurer. Il est le réparateur des brèches. Et là où il y a eu peut-être des failles et qu'il n'en a pas connu, n'est-ce pas? Dieu est là. Dieu est là pour restaurer, pour reconstruire. Je vous invite à fermer vos yeux. Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui est toujours là pour nous enseigner. Ta parole qui est là, quelquefois, il est vrai pour nous reprendre. Mais quand tu nous reprends, c'est pour aussi nous donner la solution à nos faiblesses, à nos manquements. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous te disons, c'est vrai, Père, il y a eu des manquements dans ma famille. Il y a eu des manquements dans mon rôle de papa, chef de famille. Il y a eu des manquements. Et Père, Père Céleste, mon Père Céleste, je suis devant toi. Et te demander, aide-moi. Je te demande pardon, mais aide-moi. Afin que je puisse, par l'Esprit de Dieu, aussi me rapprocher de mon fils, si cela est nécessaire. De me rapprocher de ma fille, si cela est nécessaire. Aide-moi. Et que tu m'aides à reconstruire, à rebâtir ma famille, mon foyer. Que l'on puisse retrouver, que l'on puisse voir ces principes dans ma famille. Aide-moi, Seigneur. Amen.